à toutes et à tous. Bienvenue pour Histoire de Savoir, un magazine de Radio Campus, la radio de la communauté de l'Université libre de Bruxelles. Au micro et à la technique, Adeline Wickmans. Alors aujourd'hui, nous allons retrouver Benoît Beyer-Derick, historien, philosophe et collaborateur scientifique ici à l'ULB. Nous le retrouvons pour poursuivre la discussion entamée la semaine dernière autour de Samuel Pepys. Samuel Pepys, administrateur et parlementaire anglais du XVIIe siècle et qui a, outre son travail, quotidien administratif, a également décidé de tenir un journal qui a été retrouvé et qui couvre la période allant de 1660 à 1669, une période particulièrement riche en événements en Angleterre et plus particulièrement à Londres où habitait Samuel Pepys. Voilà, donc on va retrouver tout de suite Benoît Beyer-Derick pour aborder justement cette fameuse mine d'or qu'est le journal de Samuel Pepys. J'ai l'impression qu'en fait, ce document doit être une espèce de mine d'or pour des tas d'historiens, puisque vous disiez, Benoît Beyer-Derick, à la fois il parle de ce qu'il vit au quotidien, de ce qu'il mange, de l'évolution de la vie politique. Ça parcourt tellement de degrés différents et de centres d'intérêt variés que ça doit être le livre de chevet de tas de gens.
Oui, c'est sûr. Et je crois effectivement que même si ici on ne le connaît pas très bien, en Angleterre, il est très connu pour cette raison-là, parce que encore une fois, c'est une fenêtre ouverte sur cette époque, sur le Londres de l'époque en particulier, qui est vraiment au cœur de ce journal. Hein. C'est le personnage principal peut-être du journal, ce Londres de l'époque, dans lequel vivaient environ 500 000 habitants, alors que le reste de l'Angleterre n'avait que 5 millions d'habitants. Donc c'était véritablement déjà une ville monde, une ville très importante. Pepys relate à la fois les lieux et les milieux de cette société et tous les aspects effectivement qui peuvent être dégradés, enfin qui peuvent être, on peut vraiment passer cette société du temps comme au prisme de ce journal avec toutes sortes d'intérêts et d'attention sur une multitude de sujets. Ce Londres de l'époque dans lequel il nous fait parcourir les lieux du pouvoir, comme Whitehall, où se trouvait le palais royal, ou la bourse, le lieu de l'économie, ou Westminster, le parlement, ou encore la tour de Londres, ou alors la City également. C'est aussi toutes les tavernes qu'il mentionne dans ce journal. Il y a 100 tavernes qui sont citées. Il y en a 3 qui ont sa préférence, c'est le Soleil, le Dauphin et le Cygne. C'est aussi 3000 personnages qui apparaissent dans ce journal, c'est-à-dire quasiment autant que dans la comédie humaine de Balzac. Alors on a de tout, hein. On a vraiment du plus haut de la société, le roi, les grands aristocrates, les femmes de cour, mais jusqu'au bas de la société, jusqu'aux personnes qui fréquentent les tavernes, les marins, les artisans, les domestiques, les blanchisseuses, toute une série de personnes véritablement, les fonctionnaires bien entendu. Donc on a toute la société londonienne du temps qui apparaît au fil des pages de ce journal. On a aussi toute la vie du temps, la société, mais aussi la vie culturelle, parce que encore une fois, cette vie culturelle qui s'était assoupie, qui avait été contrainte de s'arrêter, en tout cas la vie théâtrale et la vie musicale aussi au moment de la dictature puritaine de Cromwell, eh bien maintenant les théâtres ont rouvert leurs portes. Pepys adore aller au théâtre, il y va très fréquemment. Il a conscience que c'est un petit peu mal, il sent qu'il pêche un petit peu en s'adonnant à des plaisirs un peu vains et qui étaient condamnés avant. Et donc il s'inflige toute une série de petites amendes quand il transgresse eh bien ses interdits, ses bonnes résolutions qu'il prend occasionnellement, qu'il prend à tel ou tel moment. Et donc, quand il va au théâtre, quand il boit un peu trop, quand il mange un peu trop, quand il fréquente un peu trop les femmes, eh bien, il s'inflige des amendes et il paie cela aux pauvres. Mais donc, cette vie culturelle, ce sont les théâtres, c'est aussi la musique. Pepys est un grand musicien et c'est un autre thème que l'on peut justement développer largement, c'est le Pepys musicien. Il jouait de plusieurs instruments de musique, notamment le violon, la flûte à bec, le flageolet, c'est une sorte de flûte à bec, et aussi de beaucoup d'autres instruments. Il assistait à des concerts, il participait lui-même en tant que musicien des petits concerts. Et parallèlement à cela, on a aussi toute la vie scientifique. Il s'est beaucoup impliqué, je le disais, dans la vie scientifique du temps, à la Royal Society dont il était membre et devenu président. Il y a toute l'actualité littéraire aussi que l'on peut suivre au travers de ce journal, les livres qu'il lit, les livres dont il entend parler. Donc c'est véritablement très riche. Il y a évidemment toute la gastronomie, toutes les nourritures et les boissons que l'on mangeait et consommait à l'époque, qui est aussi très détaillée. Il y a son propre parcours, sa propre ascension personnelle qui est documentée de manière extrêmement précise. C'est souvent vers la fin de l'année, en décembre, qu'il fait le bilan de l'avancement de sa carrière et de sa fortune. Alors au départ, il n'a que 40 livres sterling, ce n'est pas beaucoup. Mais en 1667, on est au sommet de sa richesse, et là, il a, je crois que c'est 6900 livres, ce qui doit correspondre à plusieurs millions d'euros aujourd'hui, si on voulait convertir cela. Et donc, il est très satisfait de ces bonnes grâces dans lesquelles Dieu le maintient, justement, du fait de sa bonne fortune. On y trouve relaté aussi sa vie sentimentale. Il a fait un mariage d'amour. Il a épousé la fille d'un huguenot français, désargenté, Elisabeth Marchand de Saint-Michel, qu'il aime, mais avec laquelle il se dispute assez fréquemment et qu'il trompe assez régulièrement. Et il a là aussi une mauvaise conscience par rapport à cela, mais il ne peut s'en empêcher, semble-t-il. Il estime aussi que c'est dans sa jeunesse qu'il doit essayer de profiter. Il a conscience qu'il est encore un peu jeune et que c'est plutôt à ce moment-là qu'il doit profiter de la vie plutôt que plus tard, quand il ne sera plus en état de le faire. Et donc, avec une série de femmes dont il mentionne les noms dans le journal, il a des aventures extra-conjugales, parfois des aventures selon une certaine durée. Ce sont des maîtresses un peu constantes. Et puis, parfois, c'est des aventures beaucoup plus rapides, beaucoup plus passagères. Et il rapporte cela dans un langage encore plus crypté que le reste du journal, car il utilise pour cela une sorte de lingua franca, une sorte de salade linguistique qui mélange de l'italien, de l'espagnol, du néerlandais, du français, et du latin et du grec. Et donc on a une sorte de mélange très cocasse, dont je peux peut-être lire cette petite citation qui donne un exemple de la manière dont il décrit cela. Jour du Seigneur, habillé, me fis coiffer par ma jeune servante, avec laquelle, je le confesse, je sum demasiado affectueux. Numper podendo saepe mes mains in su dos choses de son poitrine, mais il faut que je laisse ça, de crainte de subir alguno grand désagrément. Voilà un petit peu le style de ces passages dans lesquels il rapporte ses aventures extra-conjugales.
Passages donc cryptés dans la manière dont ils sont écrits, mais également dans son style sténographique, donc doublement indéchiffrable.
Doublement indéchiffrable et qui, lors de la redécouverte du journal au 19e et des republications, ont été aussi coupés dans les versions qui ont été connues avant la grande édition complète, dans la seconde moitié du 20e siècle, en anglais d'abord, en français ensuite, cette édition qui a été menée en Angleterre par Robert Latham et William Matthews. Alors, donc, on trouve tous ces éléments donc, qui apparaissent peu convenables hein, pour ce personnage, ce haut fonctionnaire et ce personnage très haut placé arrivé à une très haute place dans la société. Une autre petite anecdote amusante, il se trouve à l'office, parce qu'il faut dire qu'il assiste très, très régulièrement et de manière extrêmement assidue aux offices religieux le dimanche, jour du Seigneur, hein, et donc il le mentionne toujours. C'est aussi une sorte de spectacle, hein, ces offices. Il juge les sermons, il considère que tel sermon était bon, tel autre beaucoup moins intéressant. Mais il n'est pas toujours extrêmement attentif, puisqu'il rapporte comment, lors d'un office dans une église, il avait vu une jeune femme qui lui paraissait très séduisante et par rapport à laquelle il a tenté quelques avances, il voulait tenter quelques avances, mais il a vu que cette femme avait sorti de ses cheveux une épingle et qu'elle s'apprêtait à le piquer s'il avait des mains baladeuses. Si bien qu'il s'est tourné vers une autre personne qui, elle, s'est laissée faire et il a eu une petite aventurette, une amourette pendant l'office. Et puis après, ça n'a pas été plus loin. Mais voilà l'une des anecdotes qu'il rapporte. Aujourd'hui, on aurait un regard beaucoup plus critique, évidemment, sur ce type de comportement, mais il faut replacer ça dans la société du temps.
Parmi les éléments importants, bon, sa vie évidemment survole une partie historique vraiment essentielle de la construction de l'Angleterre, de la construction du système démocratique actuel, vous le disiez tout à l'heure, hein, c'est aussi une période qui a été très importante pour la ville de Londres, là où il habitait, et où Londres a connu de grands bouleversements également.
Oui, il a eu la chance, si on peut dire ça comme ça, d'être le témoin de deux grands événements. La grande peste de 1665 et le grand incendie de 1666.
D'en avoir été témoin et de pouvoir les relater.
Oui, il en a été témoin et il les a relatés. Il n'a pas quitté la ville à la différence d'autres personnes, de la cour notamment, qui a quitté la ville, de certains hauts fonctionnaires, de toute une série de personnes qui avaient les moyens de quitter la ville ou qui avaient peur aussi pour la grande peste, hein. Ça a été le cas notamment de Isaac Newton, dont on a déjà parlé, qui est retourné dans son Lincolnshire natal. Et c'est à cette occasion notamment que, selon la légende, dans un verger du Lincolnshire, il aurait vu tomber une pomme à terre et en serait venu à développer cette théorie de la gravitation universelle. Pepys, lui, est resté à Londres, où la peste est arrivée venue du Levant, mais étant passée par Amsterdam, est arrivée ensuite à Londres. Et cette peste, qui a sévi pendant de très nombreuses semaines, a entraîné la mort d'environ 100 000 personnes, c'est-à-dire...
Un cinquième de la population.
Un cinquième de la population. Et Samuel Pepys, courageusement, reste à Londres, peut-être par curiosité, aussi pour venir en aide éventuellement à certains. D'autres ont dit que c'était aussi pour consoler quelques veuves qui se trouvaient encore à Londres. Et il rapporte comment, notamment, on se demande si la mode des perruques va résister à la peste, va survivre à cet épisode de la peste, parce que la mode des perruques s'était développée. C'est assez amusant d'ailleurs. On voit comment Pips lui-même s'est mis à porter une perruque. Il présente, il se montre en perruque aux gens de sa maison et à sa femme, et on se moque un peu de lui parce que c'est assez nouveau de porter des perruques, et ses domestiques disent qu'il le préférait en cheveux plutôt qu'avec cette perruque. Donc cette perruque qui est aussi portée par le roi dont la cour donne l'exemple, et donc cette mode des perruques s'était développée, mais avec la peste on en vient à suspecter les perruquiers d'utiliser les cheveux de pestiférés pour faire des perruques, si bien qu'on devient un peu méfiant à l'égard du port de ces perruques. C'est un exemple. Un autre aussi évoque le fait que certains pestiférés malveillants se plaçaient à leur fenêtre pour souffler vers les personnes bien portantes qui passaient près de chez eux. Donc voilà, c'est un climat assez tragique, évidemment, un climat de mort, un climat extrêmement anxiogène qui se développe, mais qui va prendre fin, heureusement, à la suite d'un refroidissement. La peste va s'achever, mais quelques mois après, c'est le grand incendie de Londres qui va se déclencher, le 2 septembre 1666. Semble-t-il, au départ de la boulangerie de Thomas Fariner, qui était le boulanger du roi, qui se trouvait à Pudding Lane, près de la Tour de Londres. Et cet incendie va se développer très rapidement. Au départ, Samuel Pepys, qui relate cela, dit comment sa servante est venue le trouver en pleine nuit pour lui signaler cet incendie, mais comme il lui semblait encore assez loin, il s'est recouché. Mais le matin, se relevant, il voit que c'est quand même beaucoup plus proche et plus important qu'il ne le pensait, et il va voir, un peu comme un badaud, il va assister au plus près de l'incendie pour en prendre toute la mesure. Et ensuite, il va relater justement ce qu'il a vu auprès du roi Charles II et de la cour, qui se trouvait à Whitehall, je pense. Et là, il va suggérer que l'on détruise des maisons pour arrêter l'incendie. Et c'est finalement comme ça qu'on pourra arrêter effectivement cet incendie. Mais au départ, on ne voulait pas détruire des maisons parce que il y a un respect très grand de la propriété privée. Donc on ne voulait pas détruire des maisons alors que c'était en fait le seul moyen pour lutter contre cet incendie, car il n'y avait pas encore véritablement de pompiers, pourrait-on dire. Et on parle d'ailleurs des pompiers comme les sapeurs-pompiers, parce que le travail des pompiers ou de ceux qui luttaient contre les incendies, ce n'était pas qu'avec de l'eau, c'était aussi un travail de sape, c'est-à-dire détruire des maisons de manière à empêcher la propagation du feu et d'un incendie. Mais donc cet incendie s'est développé et a duré 4 jours, et il s'est développé aussi sur les bords de la Tamise, où se trouvaient des entrepôts de goudron, d'eau de vie, d'alcool. Et donc tout ceci était des matières extrêmement inflammables, si bien que cet incendie a embrasé véritablement Londres. Et la manière dont Pepys le rapporte est très poignante. C'est des scènes d'apocalypse auxquelles on assiste là, avec cet incendie généralisé qui va détruire, pense-t-on, 80% de la ville de Londres de l'époque. Donc ça va véritablement être une destruction énorme, plus importante que le Blitz pendant la Seconde Guerre mondiale. Cet incendie va faire presque 100 000 sans-abri. Par contre, peu de morts officielles, en tout cas officiellement reconnues, c'est moins d'une dizaine. Moins d'une dizaine de morts, en tout cas officiellement comptabilisées. Mais même si l'incendie n'a duré que 4 jours, il a encore couvé pendant des mois, semble-t-il. Il y avait des restes d'incendie plusieurs mois après en certains lieux. Mais bien entendu, c'est une catastrophe, mais c'est une catastrophe qui va être positive pour un homme, c'est Christopher Wren, qui va reconstruire une bonne partie de Londres, et notamment la fameuse cathédrale Saint-Paul, qui, avec cette coupole très, très reconnaissable, et ça va être le grand architecte de la reconstruction de Londres après ce grand incendie de 1666.
Donc, Pepys assiste à l'incendie. Vous disiez, Benoît Berderick, il va le relater auprès de la cour. Lui ne vit pas, je suppose, dans la portion de la ville qui va être détruite. Certains espaces sont totalement protégés.
Oui, il a la chance, effectivement, sa maison a la chance d'échapper à l'incendie, mais la maison de son père, par exemple, a brûlé, et donc il y a certaines parties de la ville qui ont échappé à l'incendie, et effectivement, il a pu échapper à cela. C'est surtout la vieille ville, c'est la city qui va être la plus touchée. Mais bien entendu, vers l'ouest de Londres, je pense que là les espaces ont pu échapper à cet incendie. Et je disais, c'est vraiment en détruisant les maisons qui entouraient la tour de Londres qu'on a pu mettre fin à la propagation de cet incendie. Jusqu'à la tour de Londres elle-même.
On en est où dans la vie de Pepys à ce moment-là? Le journal s'étend encore?
Après le grand incendie de 1666, il va poursuivre son journal jusqu'en 1669, continuant de relater sa vie et les événements du temps. Selon d'ailleurs une structure qui est assez... qui est constante dans le journal, c'est-à-dire qu'il il commence toujours par dire lever, lever puis au bureau, lever puis chez mon tailleur, lever puis aller à Whitehall, etc. Et les journées s'achèvent par ensuite au lit, ensuite coucher, ensuite la journée s'arrête sur le moment où il va se coucher. Et donc entre ces deux moments, on a toute la journée de Samuel Pepys qui est faite d'un mélange entre des temps de détente et des temps de travail. Alors je disais, il travaille beaucoup, mais ces moments de travail, ces réunions sont entrecoupés de moments de loisirs, que ce soit pour aller à la taverne, parfois pour voir aussi un collègue, un fonctionnaire, quelqu'un avec qui il est en affaires. Donc c'est peut-être aussi du temps de travail, mais du temps de travail un peu plus léger, ou alors pour aller chez son tailleur, chez son libraire, chez un orfèvre, chez un artisan, ou pour fréquenter une de ses femmes avec lesquelles il entretient une relation. Et ça m'a fait penser à ce que l'historien Alain Corbin avait appelé le temps poreux de l'Ancien Régime, dans lequel le temps de loisir ou le temps de travail est entrecoupé de périodes de loisir. C'est beaucoup moins, en quelque sorte, contraignant, cadenassé que pour nous aujourd'hui, où on est davantage dans des durées de travail plus encadrées par des horaires de travail. C'est différent pour Pepys, qui pouvait rester parfois assez tard au travail. Il faisait des heures supplémentaires, pourrait-on dire. Il se levait aussi assez tôt. Le lever était autour de 4-5 heures du matin. Alors parfois ça variait, mais on a pu faire tout un relevé de ses journées, de ses horaires, et c'est quand même souvent très très matinal. Et voilà, c'est ce qu'il raconte dans la suite, enfin, tout au long de son journal. Il parle aussi, je l'ai dit, de sa relation avec sa femme, hein, des entretiens qu'il a avec sa femme, de la bonne harmonie de leur couple, mais qui est entrecoupée quand même, je l'avais dit aussi, de périodes de disputes dont il rapporte les scènes dans le journal. Femme, Elisabeth Pipps, avec laquelle il n'a malheureusement pas eu d'enfant. Alors on ne sait pas exactement si c'est, je dis malheureusement parce qu'il s'en plaint, mais on ne sait pas si c'est dû à un problème de fécondité chez lui ou chez elle, ou pour une toute autre raison, on n'a pas vraiment l'explication, mais en tout cas, il n'aura pas d'enfant. Il arrête son journal en 1669. Et pourquoi l'arrête-t-il? Parce qu'il craint de devenir aveugle. Et c'est vraiment la mort dans l'âme qu'il va arrêter son journal le 31 mai 1669. Et je voudrais vous lire les dernières lignes de ce journal. Ainsi s'achève tout ce que, je le crains, je serai jamais en mesure de faire avec mes propres yeux pour ce qui est de tenir mon journal, car je ne peux plus continuer, étant allé jusqu'au point de me ruiner la vue presque à chaque fois que je prends la plume à la main. Ainsi donc, quoi qu'il arrive, je dois y renoncer. Je me résous donc à suivre cette voie qui, pour moi, revient presque à descendre au tombeau, que pour cela et pour toutes les afflictions qui accompagneront ma cécité, le bon Dieu veuille me préparer. Alors, il est donc très triste d'arrêter ce journal, hein, c'est comme, dit-il, descendre au tombeau avant l'heure, et il craint de devenir aveugle. En fait, il ne va pas devenir aveugle, puisqu'il va encore vivre jusqu'en 1703, mais sa vue ayant diminué, il ne conçoit pas de faire dicter à ses gens ce journal, étant donné le caractère très, très personnel, bien entendu, de ceux qui s'y trouvent. Et sa dernière invocation est une invocation à Dieu, auquel il demande de l'aide pour la suite. Et alors peut-être pour connaître la vie de Pipps après le journal, on a la très bonne biographie de Claire Tomalin, Samuel Pipps ou Monsieur Moi-même, qui est une biographie tout à fait passionnante, la seule qui existe en français, elle a été traduite en français, mais même en anglais, c'est une des très très bonnes biographies qui relate justement la vie de Pipps après, enfin toute sa vie avant et après le journal, mais aussi tout ce qu'on trouve dans le journal. Et par la suite, eh bien, Samuel Pipps va connaître quelques moments de grandes difficultés. À deux occasions, on va lui reprocher certains aspects, lui reprocher notamment un papisme supposé. Il va se retrouver pendant quelques temps, une courte période, mais emprisonné à la Tour de Londres. Il va finalement être lavé de tout soupçon. À un autre moment, il aura encore une petite difficulté, mais à chaque fois, il va en quelque sorte parvenir à rebondir et à être réhabilité. Mais malgré tout, après la glorieuse révolution de 1688, qui a vu le roi Jacques II être déposé, eh bien, comme Pipps était un soutien de cette monarchie des Stuarts, de Jacques II, son étoile va décliner à ce moment-là. Il va quitter les affaires publiques, il va quitter les affaires de l'État, il va quitter le ministère de la Marine, et il va, en fin de compte, trouver refuge chez un ami près de Londres, où il va mourir en 1703. Il faut encore préciser que l'année de la fin de son journal, 1669, avait été marquée par de grandes épreuves pour Pipps. Non seulement cette cécité, cette vue qui baissait, mais aussi, peu de temps après la fin de son journal, la mort de sa femme, qu'il aimait malgré tout beaucoup, semble-t-il.
Alors, on avait démarré cette interview, Benoît Béhaire-Derick, en parlant de la découverte de ce journal, de ce que ça a dû représenter pour l'historien qui est tombé là-dessus et qui a, vous disiez, passé 3 ans de sa vie à le décrypter, à découvrir la langue, quelque part, créée par Pepys. C'est une source incroyable d'être tombé là-dessus et puis d'imaginer tout ce que ça a pu engendrer comme recherche par la suite.
Oui, c'est vraiment une source incroyable qui nous permet vraiment d'entrer dans l'intimité d'un haut fonctionnaire, d'un grand personnage de cette Angleterre du XVIIe siècle, qui a eu un parcours tout de même assez remarquable aussi, parce que c'est grâce à la chance, mais aussi au soutien de ses cousins Montaigu et de sa brillante intelligence, qu'il a pu s'élever au plus haut niveau de la société du temps, jusqu'à fréquenter la cour, jusqu'à avoir ce rang, je le disais, quasiment de ministre de la marine, mais aussi fréquentant tous les aspects et tous les milieux de la société londonienne du temps. On peut aussi suivre, je dirais, une carte à la main, les pérégrinations de Pepys dans le Londres de cette époque, du XVIIe siècle. Et donc, c'est une source absolument inouïe, fascinante. Et ce qui est amusant, c'est que les gens de l'époque ne l'ont pas connu. Donc, on connaît, nous connaissons, disons, cette période de l'intérieur par le regard et par les textes de Pepys, mais les gens de l'époque ne pouvaient pas avoir accès à cette source-là. Donc c'est 2 siècles après, et même un peu plus si on doit attendre l'édition complète de ce journal, que enfin on a pu entrer dans cette intimité d'un grand personnage, d'un grand Anglais du XVIIe siècle.
Voilà, c'est ici que se referme cette histoire de savoir. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à Benoît Béhaire-Derick de m'avoir accordé cette interview. Il me reste à vous souhaiter à toutes et à tous une excellente fin de semaine. On se retrouve jeudi ou vendredi prochain. D'ici là, portez-vous toutes et tous très bien. Au revoir. What?